Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 19h en temps universel.
Clémence Denavy.
Bonjour, Nicolas Sarkozy en victime de l'affaire Clearstream. Le ministre français de l'Intérieur était entendu ce mardi par la justice. La vérité sera faite, a-t-il affirmé. Jacques Chirac dément catégoriquement ce soir avoir possédé, jamais possédé, un compte au Japon. C'est ce que révèle le Canard enchaîné dans son édition de demain mercredi. Les affrontements entre partisans du Hamas et du Fatah se sont poursuivis aujourd'hui et ont fait une dizaine de blessés à Gaza. Toujours pas d'entente aux Nations Unies sur le dossier du nucléaire iranien. Les discussions piétinent. En Israël, Shimon Peres met en garde Téhéran. Ceux qui menacent sont menacés. La France vibre au rythme des affaires alors que depuis des semaines, le dossier Clearstream occupe le devant de la scène médiatique et politique. Nouvelle affaire révélée ce soir par le Canard enchaîné. Dans son édition de demain mercredi, le journal satirique français affirme que Jacques Chirac a possédé au Japon un compte sur lequel 45 millions d'euros auraient été versés. C'est ce qu'aurait déclaré fin mars, le 28 mars exactement, le général Rondeau au juge chargé d'enquêter sur l'affaire Clearstream. Selon l'entourage du président français, Jacques Chirac dément catégoriquement avoir jamais possédé un tel compte au Japon et dénonce une campagne de calomnie. Calomnie, complot, des termes également utilisés ce mardi par Nicolas Sarkozy. Le ministre français de l'Intérieur était entendu par la justice dans l'affaire Clearstream. Il s'est présenté à ses juges en victime, Sophie Bakker.
Nicolas Sarkozy a mis les points sur les i dès sa sortie du bureau des juges. « J'ai été reçu en tant que victime », soulignait-il mardi en fin de matinée, ajoutant « J'ai dit aux juges que je voulais la vérité, je leur fais confiance pour la trouver ». Le ministre de l'Intérieur a été entendu à sa demande en tant que partie civile. Son nom figure en effet parmi une liste d'industriels et d'hommes politiques faussement suspectés de détenir des comptes occultes à l'étranger via la désormais célèbre société financière Clearstream. Pour Nicolas Sarkozy, l'affaire ne fait aucun doute. Il est personnellement visé par le montage autour de cette liste et qui peut lui en vouloir à ce point ? À cette question, les regards se tournent naturellement vers son ennemi en politique, l'actuel Premier ministre Dominique de Villepin. Celui-ci pourrait être entendu à son tour, mais cette fois à la demande des juges. Le Conseil des ministres doit cependant encore être saisi pour qu'une telle procédure soit enclenchée. En attendant, les autres dirigeants politiques apparaissant sur la liste du corbeau, les socialistes Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn et Jean-Pierre Chevènement, ainsi que le libéral Alain Madelin, devraient être entendus d'ici la fin de ce mois de mai.
Cette politique du complot ne doit pas avoir droit de cité dans notre République. C'est pourquoi j'irai jusqu'au bout de l'exigence de vérité, encore répétée ce soir dans un discours à Nîmes, le ministre français de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Pour la deuxième journée de suite, des affrontements ont éclaté entre partisans du Hamas et du Fatah lors des funérailles de deux des trois victimes des heurts d'hier, deux activistes du Fatah. De sources policières, des inconnus ont ouvert le feu sur le cortège funéraire. Quatre personnes ont été blessées, dont un enfant de 10 ans. Dans la matinée, déjà, d'autres accrochages ont fait une dizaine de blessés dans un quartier de Gaza. Le président de l'autorité palestinienne a une nouvelle fois appelé Fatah et Hamas à la retenue. Le premier ministre palestinien lui demande que les deux parties se réunissent d'urgence pour stopper, je cite, la spirale de la violence. Dans les territoires, l'essence commence à manquer. Le principal fournisseur israélien de carburant ayant décidé de suspendre ses livraisons pour factures impayées. La somme totale de ces factures avoisine les 270 000 dollars. Plusieurs stations-service, à Ramallah notamment, n'avaient plus d'essence ce soir. Nouveau carnage en Irak, une voiture piégée qui explose dans le nord du pays, dans le centre-ville de Tal Afar. La bombe était dissimulée dans une camionnette qui livrait de la farine sur un marché quelques instants avant la fermeture. Le dernier bilan fait état de 17 morts et 35 blessés. La diplomatie, c'est notre option, l'option la plus importante pour régler la crise du nucléaire iranien. C'est officiellement ce que déclare le président américain. En tout cas, ce n'est pas en échangeant des lettres que les États-Unis et l'Iran négocieront. La Maison-Blanche a en effet indiqué ce matin qu'elle ne répondrait pas à la lettre du président Ahmadinejad. Pendant ce temps, aux Nations Unies, les discussions piétinent. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Allemagne n'arrivent pas à s'entendre sur les termes de la résolution à adopter pour contraindre l'Iran à suspendre son programme d'enrichissement d'uranium. Dans ce contexte, comment faut-il interpréter les menaces du vice-premier ministre israélien ? Ce matin, Shimon Peres a repris à la radio les termes employés hier dans un précédent entretien. « Ceux qui menacent sont menacés », a-t-il dit à l'adresse de l'Iran, Michel Paul.
Faites attention avec vos menaces. Ceux qui parlent de détruire Israël pourraient bien être en danger eux-mêmes de disparaître. C'est Shimon Peres, numéro 2 du gouvernement israélien et prix Nobel de la paix, qui l'affirme dans des interviews télévisées. Et il tente de s'expliquer. Cela ne signifie pas, dit-il, qu'Israël pourrait mener une opération militaire contre l'Iran. Mais pour Shimon Peres, une telle opération devrait être lancée par la communauté internationale. Et dans le même souffle, il ajoute, si les puissances du monde s'unissent contre Téhéran, l'intervention militaire peut être évitée. Les critiques fusent en Israël après ces propos. Shimon Peres a raté une bonne occasion de se taire, affirme Sylvain Shalom, ancien ministre des Affaires étrangères, qui craint que maintenant ce soit le programme nucléaire israélien qui soit mis sur la sellette. Assez de bavardage, dit pour sa part le général Amos Gilad, le chef de la cellule stratégique de la présence du Conseil israélienne. Et il s'empresse d'ajouter que la destruction d'Israël n'est qu'un détail dans le plan beaucoup plus vaste du président iranien Ahmadinejad. Quant à Shimon Peres, il se défend face aux critiques. En la matière, dit-il, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Scandale au sein de la MINUL, la mission des Nations Unies au Liberia. Un fonctionnaire des Nations Unies a été suspendu. Il est accusé d'abus sexuels sur mineurs. Il y aurait eu depuis le début de cette année 2006 sept autres cas du même type signalés. Cette affaire éclate alors que l'association britannique Save the Children vient de publier un rapport dans lequel l'association affirme que des fillettes de 8 ans ont été exploitées sexuellement dans les camps de réfugiés du pays. L'Égypte affirme avoir tué le chef du groupe responsable des attentats perpétrés dans le Sinaï depuis octobre 2004 et notamment de l'attentat de Dahab le mois dernier. Attentat triple, attentat qui avait fait 19 morts. Nasser Ramis El Milahi a été tué dans la matinée alors qu'il tentait d'échapper aux forces de l'ordre. Son bras droit a été blessé. C'est à Denpasar, la capitale administrative de Bali, que s'est ouvert ce matin le procès de 4 hommes accusés d'être impliqués dans les attentats d'octobre dernier. L'audience n'a duré que quelques heures. Le temps de lire l'acte d'accusation, Jocelyn Grange.
Les 4 accusés risquent la peine de mort. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni et transporté les explosifs qui ont servi aux attentats de Bali d'octobre 2005. Les bombes placées dans 2 restaurants très fréquentés par les touristes ont fait 20 morts et une centaine de blessés. Les 4 hommes, tous indonésiens, auraient aussi, selon la police, donné refuge à Nourdine Mohamed Top, ce Malaisien qui a séjourné plusieurs années dans les camps d'Al-Qaïda au Pakistan et en Afghanistan, serait le cerveau de ces attentats et l'un des principaux chefs de la Jamaa Islamiyah. 3 autres membres de ce réseau, qui opèrent dans toute l'Asie du Sud-Est, pourraient être exécutés dans les semaines qui viennent. La justice les a condamnés à mort pour les premiers attentats de Bali, ceux d'octobre 2002, les plus meurtriers, avec 202 morts. Les 3 hommes ont refusé de demander la grâce présidentielle. « Je vais mourir dans le droit chemin, je suis un martyr d'Allah », a déclaré l'un d'eux. Jocelyn Grange, Jakarta.
C'est un geste symbolique. L'Estonie a ratifié la Constitution européenne ce mardi 9 mai, jour de la fête de l'Europe. Une fête célébrée de bien différentes façons un peu partout en Europe. L'ambassade d'Allemagne et le palais de la découverte à Paris ont notamment choisi de la fêter en faisant découvrir aux Parisiens une invention franco-allemande, le Terra Mobile, qui permet de lutter contre la pollution atmosphérique. Reportage de Julien Bouissou.
Le Terra Mobile produit un laser qui a la puissance de 1000 centrales électriques et ne dure que quelques millionièmes de seconde. L'invention est européenne. Il y a 6 ans, des chercheurs français et allemands se retrouvent pour une expérience révolutionnaire. Ludger Föste, professeur de physique à l'Université libre de Berlin, participait à l'opération.
On a tiré un tel laser dans l'atmosphère, on voyait de la lumière blanche. Un peu plus tard, on a vu que l'atmosphère devient comme un câble électrique. Et on a dit ça, il faut essayer dans des grosses installations électriques.
Et la trouvaille est un succès. Le laser sert de paratonnerre géant et peut même détecter les polluants atmosphériques grâce à son spectre lumineux. Aujourd'hui, le Terra Mobile est dans un conteneur entre le palais de la découverte et l'ambassade d'Allemagne. Ce soir, les scientifiques vont le sortir pour faire une démonstration. Brigitte Zana, directrice du développement du palais de la découverte.
Pour symboliser cette journée de l'Europe, le soir, et dès ce soir, à partir de 22h, quand il commence à faire nuit, il y a un faisceau laser qui sortira du Terra Mobile, qui ira se réfléchir sur un système de miroir, sera projeté sur l'ambassade d'Allemagne, puis par le jeu d'un miroir, reviendra sur le palais de la découverte et redescendra sur le Terra Mobile.
Pour assister à l'envoi du laser vert dans le ciel parisien, le Terra Mobile reste jusqu'à jeudi, avenue Franklin Roosevelt, à Paris.
Un phénomène qu'on pourra observer dans une heure donc à Paris. Merci d'écouter RFI, il est 19h10 en temps universel.